Mon invité, ben ça fait longtemps que j'y ai pas parlé. La dernière fois que j'y ai parlé, il était président des Alouettes de Montréal et je m'adonnais bien avec. Puis là, ben finalement, on l'a vu avec le Rocket de Laval, on l'a vu également avec l'Organisation du Canadien de Montréal. Dernièrement, il a fait parler de lui parce qu'il veut installer un club de la East Coast à Trois-Rivières. Et aussi, la semaine passée, ben, on a appris qu'il travaillait pour un dossier du basketball professionnel à Montréal. Je parle de l'ancien président des Alouettes de Montréal, Mark Wegman. Salut, Mark!
Salut Denis.
Mark, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. D'abord, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais président des Alouettes de Montréal. Après les Alouettes, qu'est-ce qui s'est passé avec toi?
Bon, juste, ça fait des lunes qu'on ne s'est pas jasé.
Ouais!
Content de jaser ce matin. Suite à mon départ des Alouettes, je suis allé faire un tour en Europe. Je suis allé travailler pour une équipe de la SHL, la ligue suédoise de hockey. Anciennement, ça s'appelait la Swedish Elite League. Bon, c'est la ligue professionnelle en Suède qui existe depuis une centaine d'années, puis qu'on entend parler souvent avec des équipes comme Modo, Joe Garden et tout, où est-ce que les joueurs comme Rasmus Dahlin, qui a été repêché d'ailleurs sa dernière année en Suède, c'était quand j'étais là-bas d'ailleurs.
Ça pointe-tu beaucoup en Suède, cette ligue-là?
Oui, tout à fait. Je te dirais qu'il y a une chose que j'ai appris pendant mon séjour là-bas, même si la Suède, c'est un pays que je connais beaucoup, où est-ce que je suis allé souvent, mon épouse étant née en Suède, c'est qu'ils partagent la passion pour le hockey qu'on retrouve ici au Québec et au Canada. C'est vraiment un sport d'envergure en Suède. Ils ont des assistances. On s'entend, c'est pas la même, c'est pas des arénas de 20 000 places comme on retrouve dans la Ligue nationale de hockey, mais un petit pays comme la Suède, c'est à peu près la même population que le Québec. Et puis, ils ont 14 équipes dans leur première division, dans leur grosse ligue. Puis, ils ont des assistances d'environ une moyenne de 6 000, je pense, pour la ligue, parmi ces 14 équipes-là. Alors, imagine 14 équipes au Québec professionnelles avec des assistances de 6 000 par match. C'est quand même, ça démontre à quel point qu'il y a un intérêt pour le hockey.
OK. Dis-moi maintenant, après ça, t'es revenu avec le Rocket de Laval, t'étais là 2 ans, c'est ça?
Effectivement, j'ai fait une saison en Suède, je suis revenu au Québec, j'ai fait 2 ans avec l'Organisation du Canadien de Montréal et le Rocket de Laval et la Place Belle. Très belle expérience, puis la Place Belle, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, c'est un amphithéâtre extraordinaire. C'est un demi-centre Belle avec tous les éléments modernes qu'on y trouve. Et puis, suite à mon séjour avec le Rocket, l'Organisation du Canadien, mais là, je travaille plus à mon compte avec plusieurs dossiers, dont le dossier que j'ai mentionné tantôt, avec une équipe de la East Coast League qu'on cherche à implanter. Je représente les propriétaires qui veulent implanter une équipe à Trois-Rivières. Alors, c'est un dossier
Donc, tu es un
important
peu à ton
qui.
compte, tu es un peu un travailleur autonome qui est un consultant, si j'appelle ça, puis qui aide à pousser, qui ouvre des portes dans des municipalités et dans des villes pour ouvrir pour des clubs de sport professionnel, c'est ça?
Entre autres, c'est ça, exactement. Fait que pour l'instant, ça fait partie, d'autres mandats aussi, mais qui sont peut-être moins intéressants à jaser aujourd'hui. Mais effectivement, ça, c'est un gros dossier. Puis le dernier, ben, tu l'as mentionné, je connais très bien le commissaire de la CEBL, qui est la nouvelle Ligue canadienne de basketball professionnel au Canada. Et d'ailleurs, la seule ligue professionnelle à être endossée par la FIBA et par Basketball Canada. Le commissaire, c'est Mike Morreale. Donc, c'est un ancien joueur des Tiger Cats. C'est l'ancien président de l'Association des joueurs de la Ligue canadienne. Donc, on s'est souvent rencontrés, sans dire affrontés, autant quand il jouait pour les Tiger Cats que quand on était à la table de négociation avec l'Association des joueurs pendant les années que j'étais président du club. Mais maintenant, il travaille dans le basketball. C'est une personne brillante qui connaît très bien le sport, le business du sport au Canada. Puis qui est à la base de cette lancée de nouvelles ligues au Canada.
Marc, question que je me pose. Là, le budget d'opération, ça va être combien de cette ligue-là? Parce que moi, j'ai su que dans le temps du Matrix, tu sais quoi le Matrix? C'était 400 000 à peu près le budget d'opération. Est-ce que c'est à peu près ça que ce serait à peu près?
Je peux pas aller trop en détail sur dans les chiffres, il y a certaines choses, éléments de confidentialité là-dedans, mais je peux te confirmer que c'est quand même pas mal plus que ça.
OK.
La beauté, parce que quand on parle de basketball professionnel à Montréal, normalement, il y a deux choses que les gens auxquelles les gens pensent. Un, ils pensent, OK, ben ça veut-tu dire que c'est la NBA? La NBA, c'est un autre niveau, c'est autre chose, c'est peut-être pour un jour, mais ça fait pas partie de la discussion à moyen terme là qu'on a et dans laquelle moi je suis impliqué. Par contre, aussi, les gens se pensent souvent aux Dragons aussi, où ils parlent, comme tu dis, la Matrix, il y a eu d'autres équipes qui ont joué, soit au centre Pierre Charbonneau ou à l'Auditorium de Verdun, qui n'ont pas eu énormément de succès. La raison pourquoi que je me suis permis de m'impliquer et de donner un coup de main à ce projet-là, c'est parce que c'est un modèle tout à fait nouveau que je trouve a beaucoup, beaucoup de mérite et qui pourrait très certainement avoir du succès à travers le Canada, particulièrement à Montréal et possiblement à Québec aussi un jour. On voit l'intérêt pour le basketball que les Québécois ont de plus en plus, il y a plus en plus de joueurs qui sont développés ici au Québec, qui se retrouvent dans les grosses écoles ou les programmes de basketball dans la NCAA Division 1. On voit qu'il y en a de plus en plus qui se font repêcher dans la NBA. On n'a qu'à voir, regarder Chris Boucher, un jeune de Montréal. Qui a joué pour les Raptors l'année passée. Donc, je pense que d'un, l'intérêt pour le basketball est rendu ailleurs, est rendu beaucoup plus intéressant que ça l'a déjà été. Mais quand je dis que c'est un modèle différent, c'est un modèle centralisé. C'est un modèle qui ressemble beaucoup plus à la MLS, où est-ce que
La fond
tous les
salariale,
contrats,
puis ainsi de suite, puis ça appartient
ben, il y a un
à
plafond salarial, oui, il y a rien d'unique là-dedans nécessairement. Mais tous les contrats sont signés avec la Ligue.
qui?
Et donc, c'est centralisé. Fait qu'il peut pas y avoir, on peut pas tricher parce que c'est la Ligue qui émet les chèques à chaque joueur, peu importe quelle équipe. Et présentement, là, il y a 7 équipes. La première saison, il y a eu 6 équipes. Cette année, il était pour y avoir 7 équipes. On s'entend, la Ligue est suspendue temporairement pour les raisons qu'on connaît. Il y a un propriétaire de cette Ligue-là. Je te donne un peu de background. Son nom, c'est Richard Petko. Richard Petko, c'est un grand amateur de basketball. C'est un homme d'affaires aguerri. Et il était propriétaire de l'équipe à Niagara, qui joue dans un amphithéâtre. La plupart des amphithéâtres dans l'Ouest canadien, où est-ce que la basketball, c'est des amphithéâtres du hockey junior. Mais il y a beaucoup, beaucoup de. C'est vraiment des beaux arénas, 5, 7, 8 000 places, très modernes. À Niagara, c'est une équipe qui avait beaucoup de succès dans la NBL, la National Basketball League of
Je
Canada.
connais.
C'est cette ligue-là qui existe depuis longtemps, qui a déjà eu des équipes à Montréal. Mais c'est un autre modèle. Et la plus grande différence, c'est que la NBL joue pendant la saison traditionnelle de basketball, donc l'hiver en même temps que le hockey. Et il joue 34-36 matchs. La première différence avec la CIBL, c'est que c'est une ligue estivale. Et c'est une vingtaine de matchs, donc 10 matchs à domicile entre les saisons de hockey. Donc, il n'y a pas de compétition, ou il y a moins de compétition bien sûr, avec le hockey, avec d'autres sports l'été. Les amphithéâtres sont très contents d'avoir un partenaire comme ça. Ils peuvent se permettre de faire excuse l'expression, mais un deal pour la location de l'amphithéâtre parce que il y a moins d'achalandage l'été. Les coûts d'opération sont moindres parce qu'il n'y a pas de glace. Fait que là, on met le court, puis le court est plus facile à enlever puis remettre, ou on peut le laisser là plus longtemps. J'embarque dans les détails, là. Mais aussi et surtout, ça nous permet d'aller chercher les meilleurs joueurs au monde disponibles qui ne sont pas dans la NBA. Parce qu'un joueur qui est juste sur le bord, puis idéalement, on peut parler d'un joueur québécois, là, qui est peut-être juste sur le bord de faire une équipe de la NBA, Et peut-être qu'il a besoin d'une année ou deux de plus de développement pour avoir une chance d'essayer de faire l'NBA ou l'équipe de la G League. On connaît la G League, c'est comme la Ligue américaine de hockey pour la NHL, mais c'est leur ligue de développement. Okay. Alors, ces joueurs-là se retrouvent en Europe, en Espagne, au Portugal, plusieurs pays où on voit ce qu'il y a des ligues professionnelles de basketball qui payent des très bons salaires. C'est une des ligues très, très sérieuses, très bien organisées. Et là, ils essaient de continuer leur développement. Alors, l'été, souvent, ces joueurs-là vont revenir à l'Amérique du Nord pour jouer dans des ligues estivales, pour essayer de jouer devant des scouts ou des gens de la NBA ou de la G League pour essayer d'aller chercher un contrat. Bien sûr, aller chercher un peu plus d'argent, plus de salaire. Mm. Et ils font ça déjà à Miami ou à Vegas ou peu importe. Alors là, ça nous donne la chance de compétitionner avec ces ligues-là sans être obligé de payer les yeux de la tête pour comme salaire à les joueurs.
Donc, le calibre, ça serait en bas de la G League?
Je dirais que le calibre est à peu près équivalent à la G League. Oh, c'est juste qu'on est dans l'autre saison. D'ailleurs, il y a plusieurs joueurs.
Ben, la G League, ça va s'améliorer, là, Mark, parce que tu sais très bien qu'il y a des joueurs du high school qui, au lieu d'aller dans la NCAA, des gros prospects décident d'aller dans la G League pour être payés. Je pense que là, ça va s'améliorer au cours des prochaines années.
Ben, et déjà que c'est un calibre extraordinaire, parce qu'on s'entend, c'est la deuxième meilleure ligue après la NBA en Amérique du Nord. Mais il y a plusieurs joueurs qui ont joué dans les deux ligues, justement. Qui ont joué dans la G League et qui ont joué dans la CBA.
Ah, okay.
Soit parce qu'ils voulaient continuer le développement, soit parce qu'ils ont été blessés pendant la saison de G League, qu'ils sont allés jouer dans la CBA l'été. Je dirais que le calibre est très, très, très comparable. J'ai assisté à quelques matchs l'année dernière et j'ai été très impressionné par le calibre de jeu et surtout le spectacle que ça donnait comme entertainment. Et puis, c'est ça pour boucler la boucle pour ce que je disais. Ben là, ça permet d'aller chercher des joueurs. Un joueur québécois qui veut jouer dans une ligue estivale, ben, si on est capable d'offrir un salaire équivalent, il va-tu aller jouer à Montréal ou il va aller jouer à Vegas? Il va aller jouer à Montréal, probablement. Il va chez eux devant ses amis et sa famille. Donc, c'est un modèle. Il y a beaucoup d'autres subtilités aussi, mais c'est un modèle qui est solide. Et là, c'est un propriétaire unique pour l'ensemble des sept équipes.
Ouais.
Parce que Richard Petco, qui était à Niagara, il a repris ça, puis il a parti de sa propre ligue. Donc, ça lui permet de contrôler l'ensemble des opérations.
Là, vous avez choisi Verdun. Pourquoi Verdun au lieu de la Place Belle? Place Belle, c'est beaucoup plus accessible avec le métro et ainsi de suite. C'est-tu une question de coût? C'est une question de...
Premièrement, Verdun, on est à quelques pas du métro de l'église, donc quand même très accessible par le transport en commun. Mm. Verdun est en train de compléter une cure de rajeunissement de 30 millions. Donc, et c'est un amphithéâtre qu'on connaît tous, là, qui a, sans dire presque une centaine d'années de d'histoire. Donc, c'est un building, pas tout à fait, mais tout près. Donc, c'est un building qui est très intéressant à ce niveau-là, bien placé dans le centre-sud de Montréal. Je te dirais que c'est beaucoup à cause du nombre de sièges et la dimension, les coûts d'opération. Il n'y a rien qui dit que la Place Belle ne serait pas bien pour une équipe de la CIBL. Tout au contraire, c'est un amphithéâtre, je l'ai dit d'entrée de jeu tantôt, c'est un amphithéâtre extraordinaire. Et puis, ça pourrait être une possibilité, mais je pense que pour les débuts, la CIBL avec des foules de 3 000 à 4 000 visées. Je pense que l'auditorium de Verdun est tout à fait approprié pour.
Avez-vous fait une étude de marché?
Et oui, les études de marché qui ont été faites, qui démontrent, là, si on regarde les chiffres, si on regarde le marché de Montréal, c'est un des marchés les plus intéressants au Canada qui ne sont pas déjà développé au niveau d'une équipe de basketball.
Par contre, tout ce qui est mineur, Marc, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Tout ce qui est circuit mineur au Canada, à Montréal, c'est difficile. La Ligue Junior du Québec, c'est difficile. La Ligue Nord-Américaine de hockey, c'est difficile.
Je pense que l'important de tout ça, une des choses dans le... Bon, j'hésite des fois de l'appeler ça le sport mineur, parce que même le hockey junior majeur du Québec, c'est rendu une grosse business. Ouais, les joueurs, c'est des joueurs juniors, mais toute ligue secondaire vont avoir un défi additionnel pour démontrer leur pertinence et où ils, excusez l'expression, mais où est-ce qu'ils fitent dans l'échelle de son sport et l'importance du niveau de leur sport. Je pense que on a vu beaucoup de on pense souvent aux exceptions, aux exemples où est-ce qu'il y a eu un échec, mais on peut penser aussi des fois il y a eu beaucoup de succès là, il y a des années, bon, c'est premièrement les Alouettes ont eu beaucoup de succès pendant plusieurs années, l'Impact là maintenant ils ont gradué à un autre niveau, c'est une plus grande ligue. Le hockey junior, déjà, que ça a été plus difficile. Là, maintenant, on peut regarder l'Armada qui est à la porte de Montréal, Laval, qui ont beaucoup de succès. Et on s'entend, ça serait la première et la seule ligue professionnelle qui pourrait jouer à Montréal. Et, encore une fois, la différence avec cette ligue-là, c'est les outils sont en place, les paramètres sont en place pour être capable de bien gérer ça responsablement avec un emphase sur le entertainment. Et justement, je pense que de jouer dans un amphithéâtre qui est moins grand, fait que ça soit plein, qu'il y ait beaucoup d'ambiance. C'est ça que le monde veut. Je pense que c'est le spectacle. Okay. De jouer dans un amphithéâtre où est-ce que c'est motivé, il n'y a pas l'entertainment. Je pense aux autres équipes que tu as mentionnées dans le passé. Il n'y avait pas d'écran principal vidéo avec un power ring, avec la musique, l'entertainment, puis tout ça qui vient avec. C'était une ligue qui était peut-être une bonne ligue de basketball. Je ne veux pas dénigrer le produit, mais de ce que c'était. Mais je pense qu'au niveau business, l'approche est plus moderne et plus développée de ce qu'on voit présentement rendu en 2020.
Est-ce que, il faut que je te pose la question, tu as effleuré le dossier, mais Montréal sans Québec, c'est un petit peu moins winner. La rivalité Montréal-Québec, c'est toujours été winner. On pense Canadien Nordique, on pense Carabin contre le Rouge et Or. Est-ce que tu travailles parallèlement à instaurer une équipe à Québec?
Moi, présentement, mon mandat, ça se limite à Montréal. C'est okay. Ici où est-ce que je pense que je peux être le plus utile au groupe. Mais définitivement, la Ligue y a pensé.
OK.
Pardon?
Parce que ce serait gagnant d'avoir une équipe à Québec si tu veux amener une équipe à Montréal.
Ah, certainement. Certainement. Mais premièrement, je pense que c'est un marché qui pourrait être très intéressant pour le basketball, pour toutes les mêmes raisons que j'ai dit tantôt. Là, si tu me demandes, ça serait une bonne affaire d'avoir une rivalité Montréal-Québec. Si on pose la question, c'est vrai.
Oui, c'est sûr.
Donc, définitivement, si... Mike Morreale en a parlé dans une entrevue récemment, c'est sur la liste de la wish list de la Ligue, c'est de commencer par Montréal, mais définitivement, s'il y a une opportunité d'aller à Québec pour établir une franchise là-bas, la septième équipe, la nouvelle, là, qui est joint à la Ligue cette année, c'était Ottawa. On pourrait commencer à avoir des réalités un peu plus locales qui deviendraient très intéressantes au niveau de
l'engouement pour ça. Est-ce que les couvertures médiatiques, tu vas travailler là-dessus, Marc, si jamais tu installes une concession? Parce que il me semble que, tu sais, avoir du contenu l'été, ça pourrait être du contenu pour TVA Sports, ça pourrait être du contenu pour RDS également. Est-ce que c'est une possibilité d'avoir des matchs où ça se fait sur le web? J'ai vu ça sur le web. Quand je t'ai entendu au 91.9, je suis allé voir la Ligue, j'étais allé voir le site de la Ligue, les matchs sont sur le web encore. Est-ce que c'est possible d'avoir le contenu sportif?
Ben oui, en fait, à la mi-saison de leur première saison, ils ont tellement impressionné Radio-Canada que le CBC anglais ont commencé à web diffuser tous les matchs. Effectivement, la Ligue le faisait aussi. Mais là, ils ont signé une nouvelle entente de plusieurs années, où est-ce qu'à partir de cette année, ou quand le jeu va reprendre, non seulement que CBC vont web-diffuser tous les matchs, mais là, ils vont faire un match à la télé par semaine. Chaque équipe pourrait avoir sensiblement un match ou deux à la télé nationale. Si Montréal, surtout avec un club, est-ce qu'on espérait que Radio-Canada emboîte le pas? Définitivement qu'on l'espère. Mais il y aurait aussi une opportunité au niveau des droits locaux de parler à RDS, à TVA Sport, pour justement, tu l'as dit, c'est du contenu intéressant qui pourrait se retrouver à une chaîne sportive québécoise. Puis définitivement au niveau de la couverture médiatique, mais le travail d'informer les gens, le CBL, ça n'existait pas il y a 2 ans. Donc là, le Canada commence à l'apprendre, puis les villes, puis les régions où est-ce que des équipes commencent à connaître ça. Il n'y en a pas eu au Québec encore, mais là, on commence à avoir un peu de couverture de cette ligue-là, surtout qu'on en commence à parler d'avoir une équipe à Montréal. Donc, il faut éduquer les fans sur, comme on est en train de le faire en ce moment, toi et moi, au téléphone, ça va passer en nombre, les gens vont commencer à comprendre c'est quoi la CBL, pourquoi que ça va être un beau produit, puis dès qu'ils commencent à s'intéresser à ça, puis s'il y a des matchs à la télé, ben. C'est là qu'on va pouvoir promouvoir cette nouvelle ligue-là si bel et bien une équipe à Montréal a lieu.
Marc, merci beaucoup. C'est fort intéressant. J'aimerais ça te reparler un autre tantôt pour parler un petit peu du dossier Trois-Rivières. Parler aussi, vu que tu es promoteur d'une équipe, comment se fait-il qu'il n'y a pas une équipe de la CANAM rapidement comme ça, de la Ligue des capitales de Québec à Montréal? Tu sais, la Ligue Pioneer, c'est... Est-ce que tu étais approché? Est-ce que c'est des dossiers que j'aimerais parler au cours des prochaines semaines avec toi?
Ben, ça me ferait plaisir. Écoute, je suis un grand fan de baseball d'ailleurs, alors je m'y connais un peu. Je pense que je pourrais te donner une réponse rapide à celle-là, c'est qu'il n'y a pas de stade à Montréal, même qui est même adéquate pour la CANAM, mais il y a d'autres enjeux aussi. Ouais. Là.
Mais quand tu penses à ça, c'est épouvantable qu'une ville comme Montréal n'est pas capable d'avoir de stade. C'est épouvantable. Marc, un gros merci, j'entends le téléphone sonner, puis on s'en repart.
All right, merci, à bientôt.
Marc Wegman, l'ancien président des Alouettes.